Bienvenue dans cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro. Avec vous au fil de la prochaine heure, avec vous pour parler bande dessinée. Mais cette semaine, on va le faire avec un biais tout particulier. On va parler de bande dessinée jeunesse. Donc, dans une logique un peu de 3 à 12 ans. C'est un créneau dont on parle à l'occasion dans le cadre d'entrevues, dans le cadre de discussions. Mais j'ai l'impression, et je regardais un peu les palmarès des dernières années, qu'on l'a, somme toute, relativement peu fait dans le contexte de palmarès. Et pourtant, au Québec, il y a une très, très belle et très, très riche production jeunesse. Alors, on va faire un peu de rattrapage cette semaine. Donc, si la semaine dernière, on vous offrait des coups de cœur, mais des coups de cœur BD québécoise et internationale pour l'année 2021, donc de façon très circonscrite dans le temps, pour ce palmarès-là, on va se tomber peut-être un peu plus dans une logique de rattrapage, puisque j'ai envie de reculer peut-être jusqu'en 2018, donc la date où, du côté de Québec BD, on avait mis en place le prix Yvette Lapointe, donc un prix visant à reconnaître et récompenser l'excellence de la production jeunesse québécoise, une production qui était grandissante année après année après année après année. Et à un moment donné, les responsables de ces prix, l'équipe de Québec BD, s'était dit que ça devenait incontournable, en fond, de prendre le temps de reconnaître cette excellence-là et de la souligner dans le cadre de ces prix remis dans le contexte de la production BD québécoise. Alors, on va se faire un peu un écho à ça et on va ajouter donc à nos coups de cœur de l'année présentés la semaine dernière, des coups de cœur jeunesse. Je le dis un peu plus large, donc on recule jusqu'à 2018, on prend un 4 ans et on va aller avec pas seulement des albums précis, mais des séries également. Donc, on va se permettre quelques petits accros à travers tout ça, et tout ça dans l'optique également de se donner l'opportunité de se bâtir une petite liste de suggestions de séries jeunesse ou d'albums jeunesse qui, pour diverses raisons, m'ont happé moi personnellement. Ces diverses raisons-là peuvent être attachées à leur thématique, peuvent être attachées à leur traitement, peuvent être attachées à l'histoire qui est racontée, à la façon dont ça m'a interpellé, peuvent être attachées également à l'expérience de lecture de ma maisonnée. Donc, j'ai deux garçons qui sont en âge de lire une partie de ces BD-là et qui les ont lues, évidemment, certaines à plus d'une reprise et de façon plus régulière. Alors, évidemment, ça vient teinter aussi le regard que je vais porter sur cette production. Évidemment, je le rappelle et je fais toujours un peu des précautions là-dessus parce que je trouve que c'est important. Donc, je ne lis pas tout ce qui s'est produit en québécois. J'essaie de le faire, cela dit, mais ça se peut que dans mon index, j'échappe certains titres ou certaines collections. Si c'est le cas, si vous avez l'impression qu'il y a des incontournables qui manquent à la liste, faites-moi signe, que ce soit via Facebook, que ce soit via courriel. Donc, La Vie en BD est quand même relativement facile à trouver. Donc, faites-moi signe et évidemment, dans la prise 2 d'un tel exercice, ça me fera plaisir de les rajouter ou de les lire si ce n'est pas le cas. Et éventuellement, peut-être qu'on pourra faire l'exercice avec la production internationale, mais j'avais envie aujourd'hui de vraiment donner la place, toute la place à la production québécoise. Alors, on va tenter de le faire, évidemment, toujours à travers mon regard de lecteur passionné de bande dessinée, mais donc, ce n'est pas une opinion absolue, ce n'est pas une opinion savante, c'est simplement une opinion qui est très, très personnelle. Et j'ajouterais peut-être avant de me lancer dans mon introduction plus formelle que la sélection, je n'en fais pas un palmarès cette année, cette fois-ci, comparativement à l'an dernier, à la semaine dernière même aussi, où donc on essayait de lister de 1 à 11, de donner un pointage. Je ne le ferai pas dans ce cas-ci, donc c'est vraiment une liste de suggestions. Donc, j'ai sorti 20 albums ou séries que j'ai envie de vous proposer. Et généralement, quand on me demande des suggestions, des idées de lecture jeunesse, souvent je vais aller piger dans cette vingtaine-là, du moins quand je me limite à la production de 2018 en montant. Évidemment, pourquoi on parle de bande dessinée jeunesse? Je l'ai mentionné tantôt quand on parlait du prix Yvette Lapointe. Pour moi, dans le fond, la production jeunesse au Québec, elle est belle, elle est riche, elle est variée aussi en termes d'auteur, en termes de style, et je crois qu'elle mérite d'avoir quand même une place dans la discussion et dans les échanges. Je crois aussi, bien que ce soit le fait de quelques éditeurs, qu'il y a quand même une volonté de développer ce créneau, ce marché-là. Il y a à peu près 4-5 éditeurs qui font des efforts un peu plus accentués là, pour offrir certains titres, parfois en grande quantité, parfois en quantité un peu plus réduite, mais tout de même qui sont là, qui sont au rendez-vous année après année. Je pense évidemment à Presse Aventure, à Michel Quintin, à La Pastèque, donc qui sont les trois principaux, entre guillemets, pourvoyeurs de bande dessinée jeunesse québécoise. À ça, il faut également considérer les éditions de La Bagnole. Il faut considérer Bayard, faut considérer comme des géants également qui nous offrent de façon régulière des propositions. Il y a Petit Homme aussi, donc la version jeunesse des éditions de l'Homme qui en offre un petit peu. Il y a quelques autres, je pense aux éditions Alaska, etc. Donc, il y a quelques autres Bambou, donc quelques autres maisons, Boomerang, Scholastic, qui donc sont actifs dans ce marché-là. Donc, il y a quelques éditeurs qui, dans mon esprit à tout le moins, le dominent de manière un peu plus particulière. Faudrait rajouter évidemment Scholastic là-dedans. Et il y en a d'autres qui suivent aussi. Donc, mais ça nous montre qu'il y a quand même un échantillonnage qui est quand même assez riche, assez varié. Et quand je regardais, par exemple, la production BD de 2021, donc sur la presque centaine d'albums, il y a une belle proportion aussi de cette centaine d'albums-là qui est rattachée à un public jeunesse. Alors, donc, je pense que c'est important donc, d'en parler dans ce contexte-là et dans un contexte où, je pense, quand on se reporte, et c'était Michel Giguère qui m'avait demandé de faire l'exercice pour une récente rencontre des rendez-vous de la BD sur des tendances particulières qui est observable dans les dernières 10-20 années de bande dessinée québécoise. Et pour moi, bien, j'avais vraiment mis le doigt sur l'essor de la bande dessinée jeunesse d'ici, donc comme étant un des éléments que je retenais de façon particulière des 10-20 dernières années, notamment bien, en lien avec Pierre d'Assise, le succès de l'agent Jean. Je pense qu'il a un peu ouvert le créneau, ou du moins démontré la possibilité importante que ce créneau-là offrait. Donc, en termes de succès en librairie, en magasin, c'est incontestable. Je pense à chaque année, les séries d'Alex A vont cartonner. Du côté international, c'est par le jeunesse aussi, avec les nombris, que des auteurs québécois se sont positionnés donc, dans les grands tirages internationaux. Donc, on a deux séries qui évoluent peut-être un peu en parallèle, qui sont venues asseoir un peu ce marché-là ou ouvrir une porte d'une certaine façon, consciemment ou inconsciemment, à d'autres auteurs, donc pour s'approprier ce médium-là. Et il y a des éditeurs qui étaient déjà actifs dans le jeunesse, qui ont intensifié un peu la production québécoise, qui ont développé de façon peut-être un peu plus formelle des collections bande dessinée en complément à des livres jeunesse illustrés, qui étaient déjà un marché qui était très riche et très varié, très intéressant pour en avoir lu des tonnes et des tonnes au fil des dernières années. Alors, donc, il y a plein d'éléments comme ça qui, à mon sens, viennent placer le marché en plein essor de la bande dessinée jeunesse au Québec. Et vous allez le voir dans les 20 albums que j'ai mentionnés, bien, il y a à travers tout ça maintenant une variété de styles, une variété d'approches. Quand on parle de style, on parle de style narratif, évidemment, donc de style de type de BD, de genre, des BD d'aventure, des BD documentaires, etc., etc. On peut parler aussi de style graphique, de style visuel. Donc, il y a des différences dans l'appropriation, dans l'approche, dans l'expérimentation, dans le style de dessin. Et après ça, bien, il y a aussi des distinctions dans l'âge qu'on peut amener dans la mesure où il y a un pan de BD qui est peut-être pour les jeunes lecteurs, donc ceux qui sont d'âge primaire à partir peut-être de 6-7 ans, donc quand on maîtrise peut-être un peu plus la lecture jusqu'à 12-13 ans, et d'autres qui sont peut-être plus faciles pour des jeunes qui sont en cours d'apprentissage ou en amont de l'apprentissage. Je pense qu'il y a même eu quelques titres muets à un moment donné qui étaient sortis au fil du temps. Donc, pour les 3-5 ans, 3-6 ans, ou du moins où l'espace texte permet une lecture ou un accompagnement plus agréable pour le parent lecteur qui fait la lecture avec le tout-petit. Alors, voilà un peu pour ces éléments-là, ce paramétrage-là. Mais bon, ça fait à peu près presque 10 minutes que je parle et je n'ai pas encore mentionné une seule BD. Alors, je pense qu'on va plonger dans le palmarès et on reviendra en cours de route avec d'autres préoccupations s'il y a lieu. J'y vais évidemment de manière assez ad lib, si vous me le permettez, assez spontané également. Alors, j'espère que la mémoire m'accompagnera bien pour les 40 minutes qui nous restent ensemble. Alors, en fait, je pense que quand on fait des recommandations BD jeunesse québécoise, il y a toujours des incontournables. Et je vais commencer par le genre série d'action et d'aventure aussi. Donc, j'en ai regroupé 6 dans cette catégorie-là. Et pour moi, ben, cette catégorie commence par un incontournable. Et je m'en voudrais de ne pas le recommander parce que, justement, il est incontournable. C'est La Jean-Jean, donc série d'Alex A, qui a déjà cumulé un bon nombre d'albums. Et à la limite, à ça, on pourrait aussi considérer L'univers est un ninja, qui est un peu la série parallèle à La Jean-Jean. Une BD d'apprentissage, on avait eu l'occasion d'en parler avec Alex au fil d'entrevues qu'on a faites, entre autres une il y a déjà 2 ans, dans la mesure où on voit au fil des tomes, je pense, un auteur qui maîtrise de plus en plus son médium, qui maîtrise de plus en plus aussi son univers. Et je trouve qu'au fil des tomes, et peut-être à partir du 5e tome de la première saison, eh bien, la série en vient peut-être un peu plus à se placer. Les approches narratives d'Alexa commencent un peu plus à s'asseoir. On a expérimenté un peu avec les formats. On a eu l'espace aussi pour expérimenter, ce qui est quand même intéressant. Et là, tranquillement, ça se place. Et on en arrive quand même à bâtir un univers qui a une certaine complexité, malgré son côté très, très absurde et déjanté, qui est fort sympathique par ailleurs, d'une certaine complexité, parce que si vous avez pris le temps de lire les 2 dernières publications, celle de cette année et celle de l'année dernière, eh bien, on se retrouvait quand même, donc pour l'année dernière, je pense que c'était Défragmentation, dans le contexte d'un huis clos, dans la base de ces espions-là, de salle en salle. Donc, on était vraiment dans une BD d'action quand même haletante, très rythmée, avec un narratif qui était clair, qui était bien dirigé, bien maîtrisé. Et la publication de cette année, la grande fusion, si je ne me trompe pas, donc qui est le dernier en lice, qui, elle, a la prétention, dans le fond, de venir réunir un peu tout ce qu'on a placé dans l'univers d'Alex A, de placer les mythologies qui ont été mises en place dans l'univers Eton Ninja, de placer les éléments qui ont été révélés par rapport aux personnages et aux différents personnages au fil des épisodes, et de réunir ça de façon digeste dans un opus qui est un peu un point d'orgue, si on peut dire, à la saison et à la série. Alors, donc, je trouve que les 2 derniers albums montrent bien où en est Alex en tant qu'auteur, en tant que scénariste, en tant que dessinateur, parce que vraiment, c'est des BD qui sont efficaces. Et même pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement immergé dans l'univers de La Jean-Jean, Défragmentation, l'année dernière, par exemple, faisait montre d'une belle maîtrise scénaristique, d'une belle maîtrise du rythme, et pouvait être apprécié, à mon sens, en tant que tel. Donc, il y a un côté incontournable à cette série-là, oui, mais je pense qu'elle est incontournable de A parce qu'elle a des belles qualités, parce qu'elle s'est développée en maîtrise, en approche, et parce qu'il y a quand même des belles assises aussi avec une certaine tradition humoristique québécoise, qu'on sent l'influence, entre autres, de Safarir un peu là-dedans, de l'humour des débuts de Safarir, le côté absurde, la fin de Crow. Évidemment. Donc, il y a cette continuité-là qui nous rattache à un humour qui a été très présent dans plusieurs enfances, j'ai l'impression, de plusieurs époques, et qui se retrouve également dans La Jean-Jean, donc ce ton-là qui cadre bien avec l'esprit humoristique québécois de manière assez large. Alors, donc, pour moi, je m'en voudrais de ne pas vous recommander ce titre-là, dans la mesure où, pour moi, oui, ça a un grand succès. Oui, on n'a pas besoin comme tel d'en parler, mais par contre, ça peut valoir la peine de se rappeler que c'est bon aussi et que une des raisons pour laquelle on a ce succès-là, bien, c'est parce qu'il y a une belle efficacité, il y a une qualité dans ses propositions que nous fait Alexa année après année. Et L'univers est un ninja qui évolue un peu en parallèle, une série de 4-5 livres. Là, on se retrouve dans un récit qui est peut-être un peu plus clair, défini, avec une influence très forte des jeux vidéo. Donc, ça nous montre un autre pan un peu de cet auteur-là. Évidemment, je vais être curieux éventuellement de voir Alex approcher d'autres univers que La Jean-Jean et voir comment il développe d'autres pans, mais reste que c'est un fort beau succès et pas seulement un succès commercial. Et dans le registre série d'action et d'aventure, je pense que quelques autres titres qu'on peut prendre le temps de se recommander et de se partager. Je pense à Gibi le super bébé. J'y vais avec cette nomenclature-là parce que la série, pour une raison ou pour une autre, a eu un peu deux vies, si on peut dire, et 2 formats. Donc, avait commencé avec une série, si je m'abuse, c'est 6 ou 9 tomes, donc dans un format un peu plus petit, un peu plus apparenté aux comics à l'américaine, avec l'accent, je ne sais pas pourquoi. Mais bref, donc avec cet esprit-là d'un point de vue format, des couleurs quand même un peu plus sombres. Et là, on est passé, il y a quelques années déjà, donc il y a 3 tomes qui sont passés en format album classique, 42 pages, peut-être un peu plus lumineux aussi dans le dessin. Et donc, la première série s'appelle simplement Gibi. Et en lieu et place de poursuivre au tome 10, eh bien, on a choisi de recommencer au tome 1 avec Gibi, le super bébé. Donc, est-ce que c'est un peu pour nous dire, ben, regardez, vous pouvez commencer par les 9 qui sont sortis ou les 6 qui sont sortis en amont ou simplement recommencer la série au super bébé tome 1? C'est à voir, mais reste que d'une manière ou d'une autre, Sam Parr nous a livré dans la première bande et dans la seconde des beaux opus. Je pense une belle série d'aventures, peut-être ancrée dans un peu plus de réalisme dans le dessin ou dans la physicalité que l'agent Jean, mais on n'est pas encore dans du réalisme comme tel non plus. Avec un héros donc qui a des super pouvoirs, qui va affronter différentes créatures, différents monstres avec des objectifs. Donc, ça pile bien. Je trouve que c'est aussi, dans le fond, une belle série d'action qui nous a été offerte avec un personnage à l'âge un peu indéfini. Là. Il y a la suce du bébé, mais ce n'est pas exactement un bébé non plus. Mais bref, d'une manière ou d'une autre, c'est bien fait, c'est bien maîtrisé. Et pour moi, c'est dans les références de séries d'action d'aventure québécoises. Et ça, peut-être troisième référence que j'aimerais mettre le saut d'incontournable, c'est la série Aventure Hasard de Julien Paré-Sorel, donc qui est visiblement née d'une idée, dans le fond, de thématiques qu'on avait envie de mettre ensemble, mettre côte à côte, donc des dinosaures, l'idée d'une quête, l'idée d'exploration, de construction de monde, et en arrive donc une série qui en est déjà à son quatrième tome, qui, tome après tome, donc garde un beau rythme, garde une belle solidité et un bel esprit de quête aussi, donc d'un épisode à l'autre, avec des belles expérimentations, des belles mises en page, on veut aussi que se permet sporadiquement Julien Paré-Sorel dans certains moments, dans certaines doubles pages et autres, des couleurs, c'est coloré, c'est dynamique, et encore là, il y a une belle linéarité qui sied bien au type de lectorat qu'on va chercher, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'Aventure Hasard, je pense, au fil de ses premiers tomes, s'est imposé dans les bonnes séries d'action-aventure jeunesse faites au Québec. Je pense que d'ailleurs, le premier tome avait eu le prix Yvette Lapointe, ça a été nominé par la suite. Donc, je pense que c'est une autre série là, de belle qualité à mettre aux côtés de la Jean-Jean et de Gibi, je pense, dans trois beaux incontournables. Et à ça, ben, on pourrait ajouter peut-être aussi deux autres séries qui sont agréables, qui nous amènent aussi dans d'autres styles, peut-être un peu moins traditionnels, que ce soit dans l'esthétisme ou dans la tonalité. Dans l'esthétisme, j'ai envie de dire, en fait, J.P. Perrault avec Sa Rose du Ciel, il y a deux tomes. Et de ce côté, ben, on est vraiment dans l'idée de recréer un dessin un peu dans l'esprit des années 40, des années 50. Donc, un style volontairement un peu daté avec une palette de couleurs qui le représente bien. Et avec une narration qui se retrouve aussi dans cette époque-là. Donc, pour le parent qui a plongé dans Indiana Jones et qui se demande ben, où sont les ennemis de type Indiana Jones dans l'univers BD moderne, eh bien, on peut les retrouver au Québec dans La Rose du Ciel, où on va justement ressortir les Allemands nazis de la Deuxième Guerre mondiale, où on se positionne clairement en continuité historique, si on peut dire, avec cette période-là, mais évidemment dans une histoire inventée, dans une uchronie fort sympathique où le Québec a pris une certaine prédominance militaire, où il y a une jeune femme en jetpack qui fait ses premiers pas de super-héroïne, où il y a quelques super-vilains qui traînent aussi dans les environs. Et dans le deuxième tome, où on nous amène même vers l'espace, avec donc un extraterrestre qui descend sur Terre et qui réussit à contrôler l'esprit des terriens et terriennes. Et évidemment, bien, les gens doivent l'empêcher d'accomplir son triste plan. Alors, ça donne un peu le ton. Et sincèrement, côté visuel, côté dessin, c'est agréable. Et encore là, c'est différent de ce que les autres ont choisi d'offrir. Donc, on est dans une autre esthétique. Évidemment, c'est le genre d'esthétique où ça peut valoir la peine de contextualiser aussi aux jeunes lecteurs. Mais dans le fond, pourquoi c'est dessiné comme ça? Ça fait référence à quoi? On se place dans quel contexte? Ou simplement de lui faire écouter Indiana Jones et il va très bien comprendre l'esprit un peu de ces... En fait, du côté filmique, Indiana Jones qui essaie de s'amuser avec une esthétique qui est plus apparentée peut-être aux années 60 dans un certain degré. Donc, c'est un peu la même chose avec La Rose du Ciel. Et personnellement, je trouve ça joli et sympathique. Alors, il y a La Rose du Ciel, donc je le disais, pour le côté rétro. Et en parallèle, pour le côté peut-être plus comics, j'aurais tendance à lancer vers U. Merlin. Donc, Humerlin, qui est une série de science-fiction qui reproduit, on parlait tantôt pour Gibi, donc dans un format un peu plus comique, si on peut dire, mais quand même cartonné, eh bien, c'est la même chose avec Humerlin. Donc, on y va avec un cadre cartonné. Et un peu comme d'autres séries d'aventure et d'action, ben, on fait le métissage en deux univers, au bout du compte. Donc, dans ce cas-ci, le Space Opera, donc les univers spatiaux. Et en parallèle, ben, les romans de chevalerie. Et on essaie de voir de quelle manière on pourrait donc les mettre, les intégrer, les placer côte à côte l'un avec l'autre pour bâtir un univers qui est cohésif, qui est cohérent. Et un univers qui est cohésif, qui est cohérent et qui se bâtit tranquillement de tome en tome. Ça, j'apprécie aussi du côté des auteurs, donc Sacha Lefebvre et Jean-François La Liberté, où on prend le temps de placer les choses et d'augmenter, si on peut dire, le spectre d'influence dans l'espace exploré d'un tome à l'autre. Donc, le premier qui est quand même très cantonné à la station spatiale dans laquelle les différents héros se trouvent, les vilains qui s'avancent vers cette station-là. Dans la deuxième, bien, on ouvre tranquillement, on commence à intégrer la Terre, d'autres planètes, l'idée de cette galaxie-là. Et en parallèle, bien, il y a aussi des parts de mystère qu'on place tranquillement et sur lesquelles on sent qu'on va nous apporter réponse. Alors, donc, ça se bâtit agréablement. Et pour une première lancée de ces deux auteurs-là, je trouve qu'ils ont visé juste dès le premier tome. Ils ont réussi, de façon générale, à garder le rythme aussi dans les tomes subséquents qui sont arrivés par la suite. Donc, à travers un dessin qui est quand même aussi réaliste, plus réaliste que l'ensemble des autres titres que je vous ai mentionnés à ce jour. Il faut dire que ça devient important aussi dans le contexte où on veut asseoir la science-fiction sur une certaine mécanique un peu mythologique, un peu robotique, physiologique aussi, où on va avoir un côté réaliste pour nos vilains qui sont faits de pierre, pour les éléments spatiaux qu'on va retrouver. Et ça, on réussit bien à le rendre à travers justement l'approche visuelle qui a été mise de l'avant dans cette série. Alors, ça, je dirais que ça fait un peu le tour de 5 séries d'action et d'aventure qui me semblent incontournables. Ce à quoi j'en ajoute une sixième de temps à autre entre les palmarès, il y a Perméabilité. Et ça, c'est une des séries qui avait été mentionnée la semaine dernière dans mon top 2021. C'est JF et Stéphane Bedbédé qui ont sorti coup sur coup 2 tomes donc de leur série Créature. Qui s'est retrouvé aussi dans Spirou en pré-publication et qui continue aussi en Spirou, je pense, en pré-publication. Et quand on parle d'autres métissages ou d'autres portes d'entrée, bien dans ce cas-ci, c'est une porte d'entrée vers un genre un peu de thriller horrifique. Évidemment, ce n'est pas une BD d'horreur. Il n'y a aucun enfant qui va faire des cauchemars avec ça, à mon humble avis, évidemment. Je touche du bois. Mais de façon générale, donc c'est une porte d'entrée vers une tendance de thriller un peu plus horrifique, un récit un peu autour d'être à l'image de zombies, mais qui ne sont pas des zombies. Et donc, un peu comme d'autres expérimentations ou propositions que Dargaud a fait dans le passé, entre autres éditeurs, je pense à Seul, par exemple, ben, on va vers d'autres styles, d'autres genres, mais toujours en ayant un public jeunesse en tête. Et dans Créature, ben, ce public jeunesse-là peut se reconnaître, peut se voir à travers le groupe de héros, donc un groupe d'enfants qui travaillent ensemble ou non, selon les protagonistes, et qui travaillent chacun aussi à leur façon pour essayer de découvrir ce qui est en train de se passer. Il faut dire que dans le contexte, on est à New York, on est sur l'île de Manhattan qui serait envahie d'une espèce de puissance qui vient d'outre-tombe, qui a transformer l'île en un monde post-apocalyptique, les adultes qui sont possédés par cette entité-là et les enfants et d'autres personnes qui cherchent donc à renverser la vapeur, à comprendre ce qui se passe et à tenter de régler la situation. Il y a des enfants qui ont des pouvoirs, il y en a d'autres qui ont simplement des habiletés standards aussi. Donc, bref, il y a des petites parts de mythologie qu'on place dans les deux tomes qui sont disponibles à ce jour et qui viennent bien construire donc, l'univers que JF et BetBD développent peu à peu. Et tout ça dans le contexte d'une série avec des belles séquences d'action aussi et avec des assises lovecraftiennes, donc dans l'univers d'H.P. Lovecraft pour les adultes. Donc, qui fait une référence de plus et peut-être une porte ouverte de discussion de plus, pourquoi pas, si le jeune veut éventuellement par la suite explorer plus avant des univers plus horrifiques. Eh bien, pourquoi pas? Alors, donc, je pense qu'on a 6 donc belles BD d'action et d'aventure là, dans ces propositions-là. Donc, l'agent Jean d'Alex A, Gibi le super bébé de Sam Parr, La Rose du ciel de JP Perrault, Aventure Hasard de Julien Paré-Sorel, Humerlin de Sacha Lefebvre et Jean-François Laliberté et de Créature de JF et Stéphane Bette-BD. Donc, on reste évidemment toujours dans la bande dessinée québécoise, dans la bande dessinée québécoise pour un public jeunesse. Alors, on vient de faire un petit inventaire de séries d'action et d'aventures. On va maintenant plonger vers des séries documentaires ou de vulgarisation. On le sait, et c'est valide évidemment pour le pan adulte. Donc, la bande dessinée, pour moi, c'est un outil de vulgarisation, d'explication, de compréhension du monde qui est très, très riche. Il y a un potentiel de présentation de l'information, d'explication, de complémentarité entre le visuel et le narratif, une nécessité aussi de précision dans le choix des termes, des éléments qui sont sélectionnés, qui ont accompagné, si on peut dire, l'essor d'une BD documentaire. Et ça, au fil des dernières décennies, là, on ne se limitera pas à il y a quelques années. Et évidemment, ben, ce type de développement-là ne fait pas exception du côté du jeunesse. Alors, du côté du jeunesse, on a des séries, entre autres, dans ce cas-ci, on va en retrouver deux qui sont aussi dans certains magazines parce que, pas dans les magazines de vulgarisation scientifique, on pense à Curium, par exemple, eh bien, on va utiliser justement le potentiel de la bande dessinée pour ce faire. Et il y a deux séries qui ont été un peu mises de l'avant par la suite, éditées également en album. Donc, Les oiseaux philo d'un côté, chez Bayard, et Les laboureurs, si je ne m'abuse, chez Michel Quintin. Les oiseaux philo de Karine Gotteau et Mathieu Lampron, Les laboureurs de Richard Valran. Donc, Les oiseaux philo, c'est l'idée de vulgariser ou d'accompagner l'enfant dans une réflexion à caractère éthique, à caractère philosophique, à caractère moral. Donc, on présente des situations, l'accent est vraiment mis sur les personnages, en fond, les oiseaux philo qui vivent un peu ces situations-là. Il y a peu de décors, des couleurs très vives. Et donc, on nous présente une situation et on nous présente aussi des éléments de discussion rattachés à celle-ci. Donc, c'est réalisé en collaboration avec des chercheurs en philosophie qui ont réfléchi justement aux manières de présenter, aux manières d'accompagner les plus jeunes dans l'appréhension, dans l'appropriation de ce type de réflexion-là. Et ça devient évidemment là, des portes ouvertes vers des discussions qui peuvent être extrêmement intéressantes par la suite. Donc, il y a d'un côté les oiseaux philo pour la philosophie, l'éthique, la morale. Et le labora, c'est la science, mais de manière beaucoup, beaucoup plus large. Principalement les sciences pures et appliquées, mais également on va vers d'autres pans, vers l'histoire, les sciences historiques, on va un peu aussi vers les sciences sociales et d'autres disciplines. Donc, c'est Richard Valran qui choisit de mettre en scène donc deux rats de laboratoire qui, en une planche ou deux, dans le fond, doivent expliquer leur compréhension, dans le fond, d'un phénomène, d'une réalité, d'une manière donc toujours humoristique, légère, souriante. Et donc, ça nous permet ensuite d'explorer des sujets parfois plus denses, parfois plus légers. Donc, on va de la dépression à l'open source, on va de l'ADN jusqu'à la planche à roulettes. Donc, vraiment dans un pan assez large en termes de thématiques qui sont explorées, mais toujours de manière efficace en une planche, deux planches, avec des gags, avec des référents, avec ces personnages-là aussi, donc qui mettent en contexte le récit. Et on sent que l'auteur prend un réel plaisir aussi, j'ai l'impression, à découvrir, à explorer, à creuser un peu donc ces thématiques-là pour lui aussi se les approprier. Il y a certains sujets d'ailleurs qui lui ont été suggérés pour explorer dans le contexte de ces séries-là. Je pense qu'il fait aussi pas mal de présence scolaire au fil du temps. Donc, encore là, ça fait un va-et-vient un peu entre l'auteur et le public et ses lecteurs, lectrices. Et dans le contexte des publications albums, eh bien là, on va chercher aussi un volet plus longue histoire où on va développer donc une courte histoire donc sur peut-être une dizaine de planches environ, donc qui débute, qui ouvre l'album avant de tomber sur les planches qui, elles, sont reprises de Curium, justement. Donc, avec ces deux albums-là, je pense qu'on a des belles ouvertures vers donc, le potentiel de la vulgarisation. Et à ça, il y a une troisième série de Garé et Philippe Lemieux, si je ne m'abuse. Donc, ça s'appelle « L'histoire du cinéma en BD » C'est également chez Michel Quintin, ils en sont à leur deuxième tome et ça avait été une belle surprise de mon côté. Donc, on se retrouve avec cet album-là avec l'idée qu'on a un sujet qu'on veut exploiter, qu'on veut explorer et donc on segmente en une série d'albums et publications de 42 pages chaque. Donc, on est vraiment dans un format album classique et on explore, en fond, l'histoire du cinéma. Donc, on est dans le premier tome, par exemple, dans la naissance du cinéma. Donc, c'est quoi la mécanique? Comment on fait l'image, etc., etc. Les premiers films, les premières propositions. Dans le deuxième, donc, on va vers le mime, vers certains types de jeux qu'il y avait à une certaine époque et on remonte tranquillement tout ça. Et je trouve que l'idée est bonne, d'autant que le cinéma est quand même un médium avec lequel les jeunes sont rapidement en contact, à tout le moins à travers la télévision, potentiellement à travers l'expérience en salle. Et avec la bande dessinée, bien, ça nous permet donc de replonger un peu dans l'histoire du médium et de les accompagner un peu dans l'évolution de ça, qui est absolument fascinante. Et une évolution qui, au bout du compte, montre bien et va, j'imagine, aussi bien montrer au fil du temps les évolutions des capacités techniques et des capacités scientifiques et des capacités technologiques qu'on a mis de l'avant au fil du siècle dernier, au bout du compte. Donc, de la naissance du cinéma aujourd'hui, je pense que le bond a été absolument hallucinant et, au bout du compte, représente aussi le bond hallucinant que nos capacités techniques et technologiques ont prises au fil de cette même période-là. Et entre autres, avec la naissance là, de l'informatique et sa démocratisation, puis Internet et le reste, les effets spéciaux. Donc, je trouve ça un beau sujet à explorer qui nous ouvre des portes, dans le fond, vers d'autres éléments aussi. Et ça, je trouve ça intéressant. Parce que, veux, veux pas, quand on propose des séries jeunesse, et c'est valide même aussi pour l'action, l'aventure et pour les autres thématiques qu'on va aborder, j'aime le fait que l'adulte puisse lire lui aussi l'album, puisse l'apprécier aussi, et puisse en discuter avec le jeune, puisse expérimenter avec le jeune autour de ça aussi. Donc, je trouve ça intéressant. Et pour moi, ça vient bonifier un peu l'expérience de lecture jeunesse. Donc, ce n'est pas simplement un livre qu'on propose à un enfant, mais c'est un livre aussi qu'on se propose à soi pour ouvrir des portes d'échange, ouvrir des portes de dialogue avec les publics visés par ces albums-là. Alors, donc, il y a l'histoire du cinéma en BD et peut-être plus récemment, il y a Olivier Hamel et Olivier Carpentier qui ont offert Vinyasa Ninja. J'ai trouvé aussi bien intéressant comme idée, comme concept. Et là, on est encore là dans une thématique qui est explorée par le biais de la bande dessinée et le potentiel de la BD comme objet d'intérêt pour aller chercher des lecteurs qu'on ne serait pas nécessairement capable d'intéresser au sujet d'autre façon. Et donc, dans ce cas-ci, bien, on est dans l'apprentissage du yoga. Et donc, dans l'idée qu'à travers une esthétique un peu manga, on va être capable d'accompagner un public, surtout des garçons. C'est ce qui était visé un peu dans l'esthétique et dans l'idée aussi de l'énergie qu'il y a dépensée et le reste. Donc, on est peut-être un peu plus vers un public masculin. Et donc, on va accompagner les garçons pour qu'ils puissent appréhender le yoga, appréhender des exercices de respiration, appréhender des exercices de méditation, mais à travers une esthétique ninja, à travers une esthétique manga, à travers un dessin qui est très beau d'ailleurs, Olivier Carpentier, qui fait toujours mouche, en fait, j'ai envie de dire, d'un album à l'autre d'ailleurs, et avec une portion, dans le fond, qui est peut-être un peu plus guide pratique, une portion qui est un peu plus narrative. Évidemment, on est seulement au premier tome. Je suis curieux de voir comment ça va évoluer puisqu'on a annoncé d'autres tomes. Donc déjà, avec le premier, on est dans un guide. On introduit un peu les principes, les éléments. Est-ce qu'on va s'en aller un peu plus vers l'aventure dans les prochains? C'est à voir. Mais déjà, l'idée, au départ, me semble très intéressante et c'est le genre d'ouvrage qui, encore là, peut être utilisé aussi au-delà de la BD. Je pense que comme adulte, on peut lire ça, on peut faire les dessins, on peut faire les exercices avec l'enfant si on estime que l'enfant a le besoin d'en faire. On peut s'y approprier pour soi. Donc, ça devient une porte d'entrée qui est intéressante et on démocratise, dans le fond, à travers la BD, une discipline. Alors ça, c'était 4 séries documentaires ou de vulgarisation. Donc, Les oiseaux philo de Mathieu Lampron, Karine Gotteau, Les laboras de Richard Valran, L'histoire du cinéma en BD de Gary et Philippe Lemieux et Vinyasa Ninja d'Olivier Hamel et Olivier Carpentier. Et l'idée justement de cette discussion-là qu'on peut placer, qu'on peut installer autour d'un album, eh bien, ça m'amène à mon autre catégorie de suggestions. Donc, ce que j'appellerais les albums à thématique sociale ou à thématique personnelle. Donc, des albums qui nécessairement vont être offerts à un public un peu plus vieux que certains autres. Du moins, certains titres là-dedans le méritent. Et autour desquels, bien, il pourrait y avoir une discussion. Il pourrait y avoir un échange sans nécessairement non plus, et ça c'est important de le mentionner, que la BD soit a priori là pour l'échange. Donc, l'échange lui-même ou la thématique elle-même est un beau collatéral, mais ce n'est pas nécessairement le cœur de l'entreprise de lecture. Donc, on n'a pas l'impression d'être face à des contes moraux ou autres. On est face à des histoires mises en scène, développées, mais qui adressent plus une thématique à caractère personnel comparativement aux séries d'action et d'aventure. Évidemment, il y a des titres avec lesquels on est un peu entre les deux, si on peut dire. Les deux premières suggestions seraient de cet apanage-là. Alors, il y a Mort et déterré, deuxième tome qui est sorti cette année, l'année dernière, l'autre il y a 2 ans, donc de Pascal Colperon et Jocelyn Boisvert. Jocelyn Dupuis, pardon, mon Dieu. Mais non, se trompe. Il y aurait Jocelyn Boisvert et Pascal Colperon, donc qui nous offre donc Mort et déterré, c'est adapté donc d'une série d'un livre de Jocelyn lui-même. Et donc, on est dans une adaptation BD où il y a des éléments d'aventure. Évidemment, il y a des éléments d'action. C'est quand même bien rythmé comme BD, mais l'a priori est intéressant. La façon dont on aborde aussi au fil de cet album-là, au fil de ces albums-là, ben, cet a priori-là et comment il se développe est également très intéressant puisqu'au bout du compte, on est face à un jeune qui s'est fait tuer dans un parc. On ne sait pas exactement pourquoi. C'est peut-être simplement par hasard ou non. Et qui va reprendre vie, mais sous forme d'un zombie, sous forme d'un mort vivant, et qui va tenter de retourner un peu à sa vie d'avant, voir qu'est-ce qui s'est passé entre sa mort et son retour parmi les vivants, qui va tenter évidemment d'élucider ce qui s'est passé, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qui va être pourchassé lui-même aussi parce que ça reste un mort vivant aussi. Et il y a plein de conversations, quand même d'une belle intensité à travers tout ça, donc avec un meilleur ami, avec une sœur, et etc. Donc, avec d'anciennes flammes, bref. Donc, des éléments qui viennent placer un peu l'aspect thématique, la quête de soi, la quête de sa place, l'idée du deuil, l'idée du changement, de l'évolution. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Je trouve qu'il y a une belle richesse donc, dans Mort et déterré et une belle richesse qu'on trouve aussi dans Si on était d'Axel Lenoir, où là, on est face à deux jeunes femmes qui s'amusent à s'inventer des réalités. Donc, qui disent, si j'étais telle chose, telle chose, telle chose, qu'est-ce que je serais, qu'est-ce que je viendrais, comment je deviendrais, etc., etc. Et d'épisode en épisode, on les voit donc dans ces situations-là, certaines qui sont plus légères, d'autres qui sont plus intense, bref, on joue un peu avec ça, mais avec le jeu de la quête de soi, de la quête de sa place, et une thématique qui va revenir aussi dans d'autres albums, d'ailleurs, en fait, qui est très présente, j'ai l'impression. Il faut dire que, et là, on commence à s'adresser à des jeunes qui sont un peu plus vieux, si on peut dire, le deuxième pan de nos groupes d'âge, et en ce sens, on ouvre la porte justement à ce type de réflexions-là qui sont nécessaires, donc sur la place, sur notre position dans le monde, etc., etc., notre identité, ce qu'on aura envie de faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire, de quelle manière on va l'accomplir, etc., etc. Et 13e Avenue, autre titre, en fait, donc de François Vigneault et donc de, voyons, j'oublie spontanément le nom de l'autrice. Donc, 13e Avenue du côté des éditions de la Pastèque, donc, qui est de François Vigneault et Geneviève Peterson, voilà, merci. Alors, donc, qui nous amène aussi vers cette quête d'une place-là, mais cette fois-ci à travers l'image du déménagement, à travers l'image du deuil qui revient aussi là-dedans. Donc, un garçon qui a perdu son père, sa mère qui choisit de déménager d'une région vers Montréal, donc l'appropriation de la ville, les nouveaux endroits, les nouvelles réalités qui sont associées à ces nouveaux endroits-là. Et tranquillement, on essaie de nouer des relations, de rentrer en contact avec des gens. Et à travers tout ça, il y a une dimension un peu plus fantastique avec une maison à proximité qui serait potentiellement habitée par un fantôme de quoi? Je n'en dis pas trop si vous ne l'avez pas lu. Et donc, à travers tout ça, on se retrouve encore là dans un univers très personnel, intime. Un beau dessin noir et blanc aussi, donc encore là, d'autres styles visuels dont je parlais en introduction. Et donc, ça nous offre un beau récit jeunesse, mais jeunesse plus âgée, qui nous amène vers ce type de questions-là. Je ne sais pas s'il y a toujours des suites de prévues à ça ou si ça restera un one-shot, mais j'avais trouvé que c'était une mise en introduction fort intéressante de ce type de préoccupation-là. Et en parallèle, il faut considérer aussi le garçon visage disparu de Pierre Lecrenier et de Larry Tremblay. C'est adapté d'une pièce de théâtre de Larry Tremblay. Et encore là, on est toujours sur les questions d'identité là-dedans. Et c'est un garçon qui va littéralement, dans le fond, perdre son identité à force de ne pas la trouver. Il va se retrouver avec un visage qui est vide et qui va tenter de retrouver ce visage-là après l'avoir présenté à sa mère, à des proches. Donc, ça fait des belles séquences aussi. Donc, une BD qui est ancrée dans la réalité montréalaise en termes de paysage, mais qui nous offre aussi donc, une belle exploration de ce jeune-là, de ce personnage-là et de ce qui lui arrive. Alors, encore là, une autre opportunité d'amener de différentes façons, dans différents cas, donc cette réflexion-là, la place, l'identité, l'évolution, l'avenir, donc des questions qui sont quand même importantes et qui prennent une dimension toute particulière avec les choix qu'on demande aux jeunes de se préparer à faire et éventuellement de faire à cet âge-là et à un âge où finalement notre expérience du monde est quand même somme toute relativement limitée. Et à ça, je pense qu'il faut ajouter un autre incontournable, j'en ai mentionné d'entrée de jeu, mais je pense à la série Les Nombris de Delaf et Dubuc. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver avec la série comme telle. On a vu donc avec, je pense que c'est le tome 8, donc qui pour l'instant est le dernier. Peut-être qu'il y en aura-t-il un autre en cours de route. Mais donc, pour l'instant, on a eu une série qui, oui, j'en ai beaucoup parlé sur l'évolution qu'elle a eue en termes narratifs, donc une série à gag vers une série à album, en gardant au fil de certains albums une dynamique de gag, puis en s'offrant une certaine distance avec celle-ci, mais qui aussi, à travers donc la vie, disons, assez intense de trois adolescentes, typique entre gros guillemets, on en a profité pour explorer autre chose que simplement des dynamiques de blagues. Donc, pour amener des questionnements sur l'identité, des questionnements sur la beauté, des questionnements sur l'amitié, des questionnements sur l'amour, des questionnements sur la sexualité. Et donc, d'ouvrir la porte encore là à ces dialogues-là. Et donc, ce qui fait qu'on a une série qui est très drôle, qui est bien faite, qui est bien menée sur le plan scénaristique, mais qui, sur le plan thématique, a aussi une richesse à offrir de ce côté. Et ce qui fait que, d'ailleurs, à chaque fois qu'on faisait qu'on voyait passer des prix internationaux, du moins basés sur des auteurs québécois, mais Les Nombris s'y retrouvaient toujours ou régulièrement parce que cette volonté scénaristique-là, elle est palpable et elle est aussi très, très maîtrisée. Alors, donc, je pense que pour des albums à thématique sociale ou personnelle, donc, on pourrait aller avec Mort et déterré de Jocelyn Boisvert et Pascal Colperon, Si on était d'Axel Lenoir, 13e Avenue de Geneviève Peterson et François Vigneault, Le garçon visage disparu de Pierre Lecrenier et de Larry Tremblay et Les Nombris de Delaf et Dubuc. Et je termine, là, il nous reste une dizaine de minutes avec des bandes dessinées pour les tout-petits. Et j'en ai choisi 5 aussi. Et je rappelle 5, mais toujours dans l'optique 2018, 2019, 2020, 2021. Donc, c'est certain, là, vous allez peut-être dire, oui, mais tu n'as pas parlé dans tes albums à thématique sociale ou personnelle de superbes albums comme Jean Le Renard et moi ou comme Louis parmi les spectres, exemple. Non, c'est pas dans la temporalité. Je pense que Jean, c'est 2013. Mais c'est des excellents albums, évidemment. Cela dit, la Pastèque a quand même offert plusieurs beaux albums pour un public un peu plus jeune. Guillaume Perrault, entre autres, qui était assez actif de ce côté. Guillaume Perrault, que j'avais découvert d'ailleurs avec un album jeunesse, mais qui n'était pas diffusé dans le circuit jeunesse. Je pense qu'il a été réédité d'ailleurs il y a quelques temps, là, mais Cumulus, l'histoire d'une amitié entre un garçon et un nuage qui était vraiment super beau, super poétique. Et j'étais bien content de le voir arriver à la Pastèque avec le facteur de l'espace. Il y a 2 tomes, je pense qu'il y a une web-série aussi. Bref, il y a plein d'affaires qui se développent autour de ça. Mais a priori, la série est fort simple et fort bien faite aussi. Donc, l'idée d'un facteur qui fait un parcours de poste, qui rencontre plein d'extraterrestres sur plein de planètes où on nous introduit justement à plein de petits univers. Donc, je trouve ça intéressant comme approche et comme approche narrative, si on peut dire. Donc, de nous amener un peu ces différents éléments-là, d'un espace à l'autre, avec une belle légèreté. Il n'y a pas trop de texte non plus, donc ce qui fait que quand on est dans une logique d'apprentissage de lecture, le parent n'est pas constamment en train de parler. On peut prendre le temps de regarder la narration visuelle, de regarder les éléments que Perrault a placés sur les planches. Donc, je trouve qu'il y a un bel équilibre dans cette série-là. Et un bel équilibre qu'on trouve aussi à un certain degré dans Arnold, un genre de super-héros qui lui est sorti cette année. où on se retrouve et un peu avec le contexte d'un jeune qui vit dans un univers plein de super-héros. Et lui, ben, dans le fond, il n'y a pas de super-pouvoir. Je pense dans sa famille, tout le monde en a sauf lui. Et il va tenter de se trouver. Donc là, on revient un peu à l'idée de la quête d'identité, mais adaptée dans une approche, je trouve, qui est plus palpable, dans le fond, pour les plus jeunes. Donc, où on amène l'idée, ben, c'est quoi son super pouvoir à lui, comment il va réussir à trouver sa place, à trouver son confort un peu aussi là-dedans. Et finalement, ben, qu'est-ce que ça va être son pouvoir? Eh ben, ça va être d'être super gentil, d'aider, de faire les choses autrement, de ne pas lutter contre les méchants, mais d'aider les gentils. Et c'est un peu ce qu'on place comme morale. Je trouve ça très beau. C'est pas uniquement de Perrault, celui-ci. Perrault, je pense, fait uniquement le dessin. Mais dans le fond, c'est appuyé par un scénario donc de Heather Tekavec. Et vraiment, là, c'est bien mené, toute cette proposition-là. Là, ça a été une belle découverte cette année quand c'est passé par mes piles de lecture. Et si on parle un peu de quête de soi, eh bien, on en parlait tantôt, mais c'est aussi valide pour les plus jeunes. Et il y a aussi, Pauline, une petite place pour moi, je pense, qui mériterait d'être mentionnée dans cet ensemble-là. Donc, Pauline, une petite place pour moi qui est l'histoire, dans le fond, c'est d'Anouk Maillot et de Marjolaine Pertin, c'est chez Comme des Géants. Et ça, c'est, mais dans le fond, une gamine qui est la plus vieille d'une famille un peu plus nombreuse qui, finalement, en arrive à une situation où elle ne trouve pas sa place exactement dans la maison. Elle se demande un peu qu'est-ce qu'elle fait là et elle se met à chercher un endroit pour elle, donc un petit abri. Dans le fond, je trouve que c'est des albums qui, en BD, dans le fond, abordent d'autres types de thématiques qui sont abordées dans l'illustration jeunesse, mais avec un autre rythme, avec une autre approche narrative, avec une autre manière d'amener ces thématiques-là. Et Pauline, une petite place pour moi, le fait aussi très bien, à mon sens. Peut-être adapté, contrairement à Arnold, un genre de super-héros qui amenait ce type de question de « c'est quoi ma place à moi? » vers une allégorie, dans le fond, du super-héros, de toute évidence. Eh bien, dans Pauline, une petite place pour moi, on est vraiment plus dans une réalité sur page qui pourrait représenter celle d'une famille typique, qui pourrait représenter l'univers dans lequel l'enfant évolue de façon typique. Et donc, il y a un jeu d'aller-retour qui peut se faire avec ça. Et quand on parle d'ailleurs l'idée de pour des thématiques plus sociales, on le retrouve aussi dans L'oiseau de Colette, par exemple, d'Isabelle Perrault, où on retrouve avec l'idée d'un déménagement dans un nouveau quartier et, dans le fond, d'une perruche imaginaire qui permet de nouer des liens. Et L'oiseau de Colette, qui est un peu le départ d'une série de bandes dessinées jeunesse d'Isabelle Perrault qui se passe donc dans les ruelles de Montréal. Il y a eu L'oiseau de Colette, je pense qu'il y a la scène de Maya qui vient de sortir cette année. Donc, l'idée qu'on place dans le fond des narratifs dans un univers qui est très clairement la quête d'Albert aussi, oui, qui s'est ajouté donc dans un univers qui est très clairement le nôtre et qui permet, dans le fond, de jouer avec de faire des allers-retours entre la réalité de l'enfant, la réalité de ses parents, et donc qui nous renvoie ensuite vers des thématiques ou des réflexions. Par exemple, le deuxième, la quête d'Albert, donc c'est Albert qui veut lire tranquille, qui se fait déranger par ses amis. Le troisième, la scène de Maya, c'est la mise en place d'une pièce de théâtre. Alors, donc, on a vraiment trois séries qui, plutôt qu'exploiter d'ailleurs un personnage, mais dans le fond, exploitent un univers, une bande d'enfants, un quartier, dans le fond, comme étant le personnage, l'assise principale. L'oiseau de Colette qui a démarré un peu le tout en force, d'ailleurs, là, qui était très chouette. Les autres sont aussi fort réussis par ailleurs. Et donc, qui deviennent un peu une série qu'on peut suivre. Et en terminant, dernière suggestion pour les tout-petits, c'est Mimos et Sam de Caton, dont le troisième tome, d'ailleurs, avait eu le prix Yvette Lapointe l'an dernier. Donc, une série de bandes dessinées pour les plus jeunes, une série de bandes dessinées qui se passe dans un jardin. Et on sent le plaisir de l'autrice, justement, à aller s'amuser, s'approprier l'univers végétal, donc les plantes. Et ça nous place, et là, on se retrouve justement dans complètement à l'extérieur de nos repères habituels. Le seul repère clair qu'on a, bien, c'est la personnage principale, c'est Mimos, donc qui est, ou Sam, en fait, qui est une petite fille et qui travaille avec un insecte à différentes petites enquêtes. Dans le premier, par exemple, donc on cherche à savoir qui a croqué la feuille d'une plante, d'un basilic. Dans le troisième, c'est plutôt, dans le fond, on a de la difficulté à s'endormir. Alors, on va voir comment les différents animaux réussissent à s'endormir à l'aune de l'hiver. Donc, ça nous amène aussi un peu d'informations sur l'univers jardinier, mais surtout, ça nous amène simplement dans un univers qui est hors normes, envisager la cour et la végétation dans une autre échelle aussi, et c'est fait de façon souriante, sympathique, légère, donc vraiment, à mon sens, une fort belle série également, qui en est à son troisième tome. Alors donc, pour les petits, pour les tout-petits, donc j'irai avec Arnold, un genre de super-héros, donc de Guillaume Perrault et Ether Tekavec. J'irai avec Le facteur de l'espace de Guillaume Perrault, avec Pauline, une petite place pour moi, d'Anouk Mayou et Marjoline Pertin, avec Mimose et Sam de Caton, ainsi qu'avec donc ces bandes dessinées d'Isabelle Perrault qui se passent donc dans le quartier Mile End, donc L'oiseau de Colette, La quête d'Albert, La scène de Maya. Donc, en commençant évidemment avec le premier. Alors, ça serait un peu mes 20 suggestions jeunesse, si on peut dire. Donc, pour les parutions, je le rappelle, de 2018 à 2021. Alors, un exercice que j'espère qu'il vous sera profitable, évidemment, puisqu'on cherche toujours des idées. Et puisque je pense, dans le fond, vous le voyez, là, j'ai pris 20 et j'y étais un peu avec quelques index que j'ai fait au fil des années, évidemment, pour repérer les différentes productions annuelles. Mais je n'ai pas fait non plus une recherche. Je pense qu'on pourrait facilement en faire une deuxième avec d'autres suggestions québécoises que je n'ai pas fait. Je pense à des auteurs comme Lilian, par exemple, scénariste basé à Montréal, qui fait beaucoup de scénarios quand même, dont certains assez intéressants. On pense à La Moire, notamment. Il y a d'autres univers qui sont d'apanage jeunesse aussi qui existent. Évidemment, du moment où on ouvre la porte de l'européen, il y en a énormément aussi. Mais je pense que les 20 titres que je vous ai mentionnés, si vous avez envie de plonger dans le québécois, avec ça, vous pouvez être certain qu'il y a une belle qualité dans ce qui est proposé. Du moins, moi, je l'ai reçu comme étant des ouvrages d'une fort belle qualité. Alors voilà, je vais reprendre mon souffle alors que l'émission est terminée. C'était Raymond Poirier avec vous. Et la semaine prochaine, on va poursuivre dans le jeunesse. Tiens, on va jaser d'Aventure aux arts. J'en ai parlé en début d'émission. Alors, Julien Paris-Sorel va être avec nous et on va faire le tour de ces 4 tomes d'Aventure aux arts qu'il nous a offerts depuis quelques années déjà. Alors, ce sera la semaine prochaine à La vie en BD. D'ici là, passez une fort agréable semaine.